Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut Coco, merci à l'équipe de nuit. Nous sommes le mardi 18 janvier, comme quoi ça avance, pas la peine de crier poursuit sa rencontre avec la réalisatrice Nourita Vive. Mais avant cela et sans plus tarder, les premières nouvelles de la matinée. Elles nous sont présentées par Solène Lehen. Comment allez-vous Solène? Bonjour.
Très bien, bonjour Marie, bonjour à tous. Les opposants tunisiens sont sceptiques après la formation d'un nouveau gouvernement hier par le Premier ministre Mohamed Ranouchi. Sceptiques devant ce gouvernement d'union nationale qui maintient des hommes de l'ancien président Ben Ali au poste clé. À Tunis, Sébastien Logeni.
C'est le premier acte politique de l'après-Ben Ali, un gouvernement qui se veut d'union nationale. Pour la première fois depuis l'indépendance de la Tunisie, des partis d'opposition intègrent enfin l'équipe du Premier ministre. Trois ministres de l'opposition sont ainsi nommés à l'enseignement supérieur, au développement régional et à la santé, le portefeuille de la santé qui reviendra au docteur Mustapha Benjafar.
Ce qui nous intéresse, c'est de retrouver la confiance de la population. Sans cette confiance, nous ne pourrons rien faire. Nous nous engageons à ne jamais trahir la volonté populaire qui a permis à toute notre résistance d'avoir un couronnement visible, concret, le départ du dictateur.
Mais à côté de ces ministres d'ouverture, les membres de l'ancien régime restent malgré tout majoritaires au sein de la nouvelle équipe. Six ministres de l'ancien gouvernement Ben Ali restent en place à des postes clés. L'intérieur, les affaires étrangères et la défense, une continuité avec le passé qui fait débat. Des manifestants hier dans les rues de Tunis exigeaient de faire table rase.
Tous ces gens-là ne représentent aucun Tunisien. Maintenant, on veut un vrai changement. On veut que tous les ministres qui sont du RCD de dégager.
Le RCD qui est l'ancien parti unique, toujours omniprésent. Si la composition du nouveau gouvernement n'a pas encore convaincu tous les Tunisiens, ses premiers chantiers devraient faire l'unanimité. Amnistie générale, libéralisation de la presse, légalisation de toutes les associations. C'est ce que revendiquait l'opposition depuis 25 ans.
Et les prochaines élections générales en Tunisie devraient se tenir dans 6 mois. À La Haye, le procureur du tribunal spécial pour le Liban a remis hier son acte d'accusation. Le document reste pour l'instant confidentiel, mais il devrait pointer du doigt le Hezbollah dans l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri. Par ailleurs, au Liban, les consultations pour former un nouveau gouvernement devaient avoir lieu hier, mais ont été reportées à la semaine prochaine. En France, la réforme de la garde à vue est examinée à partir d'aujourd'hui par l'Assemblée. Le calendrier prévoit 2 semaines pour étudier ce projet de loi qui souhaite renforcer la présence de l'avocat. La réforme de la fiscalité du patrimoine sera au cœur d'une première réunion entre parlementaires UMP ce soir à Bercy. Ce matin, les Échos publient les grandes lignes du rapport Chartier sur le sujet. Le député de la majorité propose notamment d'exonérer de l'impôt sur la fortune les contribuables dont le patrimoine est inférieur à 4 millions d'euros. En contrepartie, il suggère de taxer davantage les résidences principales et secondaires. Sur cette question de la fiscalité du patrimoine, un projet de loi sera présenté fin avril. Les orientations seront rendues publiques d'ici 1 mois et demi, mais notamment avec ce nouveau rapport, les thèmes principaux sont déjà largement connus. Daphné Denis.
Aucune piste n'a encore été écartée pour la réforme sur la fiscalité du patrimoine, a souligné hier François Baroin. Plusieurs idées directrices se démarquent pourtant, notamment la suppression du bouclier fiscal et de l'impôt sur la fortune annoncée par Nicolas Sarkozy en novembre dernier. L'entreprise est complexe budgétairement. Elle devra se faire à coup nul pour aboutir à la stabilité fiscale, comme l'a rappelé la ministre de l'Économie Christine Lagarde. Or, l'ISF rapporte plus que le bouclier ne coûte. Leur double suppression totale causerait un trou de 3,2 milliards dans les finances publiques. Plus de bouclier fiscal, mais un ISF allégé, c'est donc la solution qui se dessine. Il s'agirait de relever le seuil d'assujettissement à l'impôt sur la fortune, actuellement à 790 000 euros, ce qui reviendrait à supprimer la première tranche des personnes qui le paient aujourd'hui. Dernière proposition en date, une nouvelle taxe sur les revenus et les plus-values réalisées lors de la vente des résidences principales. Ce gain n'est pas actuellement imposé, mais concerne potentiellement les 57% de Français propriétaires. Un autre élément éclairera enfin les discussions sur la réforme. Il s'agit de la comparaison des fiscalités allemandes et françaises dans le but d'aboutir à une convergence des taux des deux pays. Un rapport de la Cour des comptes à ce sujet doit être rendu courant février, juste avant les premières révélations sur le projet de loi.
Le Conseil constitutionnel examine ce matin la question du mariage homosexuel à la demande de la Cour de cassation, saisie par un couple de femmes qui avait fait appel à la justice au printemps dernier. Enfin, la mort de Jean Dutour hier. L'académicien est décédé à Paris à l'âge de 91 ans. L'écrivain laisse une œuvre marquée par une ironie caustique et des prises de position tranchées, voire provocantes. Ancien résistant et anarchiste de droite, il avait écrit plusieurs dizaines de romans, parmi lesquels « Au bombe ». Bomber, le complexe de César, les horreurs de l'amour ou encore des pamphlets tels que La gauche la plus bête du monde. Le temps, des pluies passagères sur la moitié nord, ailleurs de la grisaille alternant avec des éclaircies. Nous allons perdre 1 à 3 degrés mais les températures restent douces entre 2 et 9 degrés ce matin, le maximum près des côtes. Cet après-midi de 7 au nord à 15 sur le pourtour méditerranéen. 6h05 sur France Culture, pas la peine de crier, c'est avec vous Marie Richeux.
Et maintenant, après un journal, comment allez-vous Solène?
Toujours bien.
Bon, on vous retrouve à 6h30 pour les titres et la revue du web, à tout à l'heure. Sur une feuille de papier qui a bientôt 20 ans, qui n'est plus très solide et ne porte aucun mot, arrachée certainement de ce que j'avais pour cahier d'école ou du reste, une tour d'immeuble dessinée. Rectangle bancal aux 1000 fenêtres et au-dessus comme en dedans un rond, un grand rond, grossièrement colorié en bleu, portant à sa surface des masses vertes et oranges très approximatives. Une tour donc est quelque chose qui représenterait la Terre. C'était ma façon, toute simple, de pouvoir coucher le monde sur un bout de papier. Voyons voir ce que ça donne sur les ondes. Il est toujours 6h05, vous êtes sur France Culture et vous écoutez pas la peine de crier. Princesse hors norme d'une tour de Babel qui ne vacillerait pas ou au profit de notre esprit critique, la réalisatrice Nourit Aviv fait des films documentaires où la langue, l'expression, les mots sont au cœur de l'image et la transperce presque. Dans le film Le pays du père, Fat Aslant, des hommes d'une cinquantaine d'années font état de ce qui manque, de ce qui leur a manqué dans l'Allemagne de l'après-guerre, où l'on était obligé de forcer le destin pour pouvoir se réapproprier les éléments juifs de la culture de langue allemande, que l'horreur avait obligé à enfouir, à détruire même. Des hommes disant leur manque de repères en allemand, leur langue maternelle. Et la langue maternelle, c'est précisément la question posée dans le film D'une langue à l'autre, qui veut comprendre le chemin fait par les êtres et les esprits qui, dans le cadre d'une installation en Israël, ont quitté le russe, l'allemand, l'arabe, au profit de l'hébreu. Un entre-deux langues dans lequel la réalisatrice, elle, se sent bien, une zone franche, une zone friche, dont il n'est pas rare de voir émerger la poésie. Aujourd'hui, mardi, deuxième moment de notre très belle rencontre avec Nourit Aviv, quand la perte est nommée.
Im Sommer 1933 besuchte ein hochrangiger Ministerbeamter die Universität Göttingen und fragte einen.
Bonjour Nourit Aviv.
Bonjour Marie.
En 2002, vous réalisez le film Fat Aslant, que vous sous-titrez Perte ou que vous surtitrez Perte. Et il y a comme ça quelques mots qui me semblent pouvoir être fil conducteur dans vos films, dans vos essais cinématographiques. Que vous dit le mot perte ?
Difficile question, parce que c'est justement ce qu'on n'a plus, mais qu'on a peut-être eu à un moment. Mais vous entendez bien que dans le mot perte, il y a père, et qu'en allemand, ça se dit Vatersland, qui veut dire le pays du père. On ne sait pas de quel père il s'agit. Est-ce que c'est le père allemand, de mes amis allemands qui parlent dans le film? Est-ce que c'est mon père à moi? Est-ce qu'ils étaient nés en même temps dans cette Allemagne d'avant, que bon, beaucoup de choses étaient perdues? Je parle là, c'est-à-dire dans le film, on parle de la culture de côté, c'est que était la partie juive de la culture allemande. Hein. Je ne parle pas de personnes qu'on sait, évidemment, mais c'est-à-dire qu'il y a, que les Juifs étaient tellement, faisaient tellement partie de cette culture allemande. Et quand je dis allemande, je parle en langue allemande. Parce que pour moi, Freud, Kafka, ça fait partie de la culture en allemand.
Ils disent aussi, ces hommes que vous faites témoigner face caméra, la perte de repères aussi, la perte de pères symboliques, la perte des pères, P-A-I-R-S aussi.
Oui,
de l'ensemble.
Ça, oui, des repères. Est-ce qu'il y avait à réparer, qui n'était pas possible à réparer? Oui.
Il me semble que vous faites aussi écho, alors peut-être pas forcément dans ce film-là précisément, mais dans d'autres films, comme D'une langue sacrée, langue parlée, ou D'une langue à l'autre. Vous faites écho à la perte d'une langue, ou en tout cas à la perte d'une langue à la faveur d'une autre. Il n'y a pas très longtemps, quelques mois, on a reçu Daniel Siboni dans l'émission. Et dans un livre qui s'appelle Entre deux, il me semble, il dit qu'au final, tout enfant perd sa langue maternelle, même un enfant qui reste dans le français. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse ?
Absolument, bien sûr, évidemment. Mais je crois que celui qui parle plusieurs langues, lui, il peut témoigner avoir perdu une, parce qu'il sait qu'elle est différente de l'autre. C'est lui, chacun, croit que c'est la même qu'il a perdue. Mais évidemment, on perd toujours. Et d'ailleurs, est-ce qu'on se rappelle, hein ? Et dans quelle langue on a dit quoi ? Mais je crois que c'est vraiment l'avantage de plusieurs langues pour être conscient de l'ensemble. Hein.
Ça signifie que lorsqu'on perd une langue, pour parler de cas qui sont évoqués dans votre film, par exemple, lorsqu'on perd le russe au profit de l'hébreu, on est conscient qu'on perd le russe. Oui. Mais lorsqu'on perd le français maternel au profit d'un autre français, on peut ne pas être conscient de ce deuil.
C'est ce que... oui, peut-être, mais peut-être on est là, je veux dire, quand je dis on, ceux qui sont polyglottes, pour en fait témoigner de ça. Ceci dit, moi je crois pas, on devrait pas perdre une langue pour une autre. Je crois qu'on devrait parler au moins 7 ou 8 langues et on sait que l'humanité est capable, c'est-à-dire un enfant est capable. Donc ce qui est dommage, qu'on ne parle pas vraiment beaucoup, beaucoup de langues, parce qu'il y a des gens qui... Moi, le père d'un ami, il connaissait 45 langues, dont certains, beaucoup, il a parlé. Donc, il y a cette capacité-là. Et je ne crois pas du tout que ça doit être une à la place de l'autre.
Nord, moi.
Ti.
Nord.
Oui.
Moi.
Moi.
Ta.
Mi.
Moi.
Ta.
Chou.
Ti.
Chou.
Ti.
Ta.
Bo.
Poti.
Бог
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez que ça apporte à l'esprit, à l'intelligence humaine de voguer entre plusieurs langues ?
Je crois que on révisite ces préjugés, comme je veux dire, c'est-à-dire que quand il y a un système, je parle vraiment très très différent, on se demande si ce qu'il y a qui comme étant des lois de la nature, peut-être ça ne l'est pas.
On gagnerait en tolérance, en esprit critique.
Déjà, quand on parle la langue, une autre langue, avec la langue va toute une logique de pensée d'une autre culture. Bon, ça va avec, hein. C'est peut-être à l'intérieur de la langue et ses parlants. Donc, je crois que, oui, que ça ouvre. Je crois qu'il faudrait apprendre pas seulement les langues de la communication comme l'anglais. Et au moment où je veux vous dire chinois, je dis, ah, c'est du même. Mais les Chinois, il a un autre mode de penser, là. Les rapports entre le parler et l'écrit, complètement différents de nôtre. Hein. C'est des pictogrammes, c'est des idéogrammes, c'est complètement une autre pensée. Et déjà l'hébreu, qui n'est pas aussi loin, parce que c'est quand même syllabique, le fait d'écrire de droite à gauche, de gauche à droite. Vous savez, moi, quand je commence à... J'ouvre un cahier où je veux écrire des notes, je ne sais pas, est-ce que je vais commencer à gauche et à droite? Et très souvent, si vous ouvrez mes cahiers, vous voyez que ça commence une fois à gauche, une fois à droite. Bon.
À la fois dans le film « Traduire », puis dans ces deux essais sur la langue, vous faites témoigner les gens sur ce passage, justement, sur la façon dont ils naviguent comme ça entre deux langues et du voyage que ça représente de passer d'une langue à l'autre.
Absolument. C'est pour ça que la fois d'avant, je dis que j'aime bien les entre. Hein. Les entre, les langues. Et d'ailleurs, dans le film d'une langue à l'autre, il y a deux poétesses qui témoignent que c'est les lieux où jaillit leur poésie, toute chacune. Et c'est une d'origine hongroise qui parle de ces non-women's ou non-women's land, hein, de là, entre les langues. Et l'autre, qui est celle qui est d'origine irakienne, elle dit, je peux le dire qu'en hébreu, « Ben ivriuti et arviuti nekudat ivaron »« Entre mon hébraïté et mon arabité, un point aveugle. » Et que c'est de là, dans ce point aveugle, que... pour elle, surgit ça.
D'ailleurs, vous interrogez beaucoup de poètes et d'écrivains, vous interrogez des créatifs. Est-ce que dans ce deuil avec lequel vous ouvrez Fatah's Land, est-ce que c'est pas de là que naît la création, l'inventivité ?
Qu'est-ce qu'on sait d'où ça naît ?
Mais vous, par exemple?
Pour moi, c'est sûr que cette question de langue et des gens qui viennent des endroits différents, qui sont tellement différents, m'a toujours émerveillée.
Et est-ce qu'on peut considérer à votre échelle de création que le deuil fait place à l'inventivité, à la créativité?
J'ai du mal à analyser moi-même d'où vient quoi. Je veux dire, j'en sais rien. Et j'aime bien ces points aveugles.
Nous poursuivons l'exploration des voix dans votre bibliothèque musicale, Norita Vive, que nous faites-vous écouter en ce second matin?
Le compositeur Ligeti, qui est hongrois, mais je crois aussi un peu roumain.
La pièce Lux Regae du compositeur hongrois et roumain Gheorghe Ligeti dans une de ses pièces donc les plus connues pour voix. Toute cette semaine, c'est une seule voix, une autre voix qui nous lit de la poésie parce que toute sa vie, il en a appris par cœur. Stéphane Hessel est né à Berlin en 1917, normalien, français libre, déporté, diplomate en poste à New York, Alger, Saïgon, Genève. C'est un homme engagé dans la défense des droits de l'homme que l'on ne présente plus, mais il est aussi un grand connaisseur et diseur de poésie. Aujourd'hui, il nous propose d'entendre le chant du destin d'Hyperion de Friedrich Hölderlin. Vous avancez là-haut dans la lumière, sur un sol tendre, bienheureux génie. Les souffles scintillants des dieux vous effleurent à peine, ainsi les doigts musiciens, les cordes saintes. Les habitants du ciel vivent purs de destin, comme le nourrisson qui dort. Garde avec pudeur en modeste bouton l'esprit éternellement fleurit en eux. Et les yeux bienheureux considèrent la calme éternelle clarté. Mais à nous, il est choix de ne pouvoir reposer nulle part. Les hommes de douleur chancellent, tombent aveuglément d'une heure à une autre.
Doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhen. Es schwinden, es fallen die leidenden Menschen blindlings von einer Stufe zur anderen wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen, jahrelang ins Ungewisse hinab.
Si t'as les yeux ouverts, c'est déjà qu'il fait beau, que les manteaux piqueurs s'exercent sur ton trottoir. Depuis des mois, dans la boue de l'automne, dans la neige de janvier, dans la terre sèche du mois d'août, des hommes ont d'abord ramassé les herbes hagardes et les gravats, Seule végétation de ce terrain laissé vague, cela fait plus de 15 ans. Puis d'autres hommes, les mêmes peut-être, sont venus en camion, ont fait grimper des grues, ont mis en marche des bétonneuses, ont monté des grillages tout autour du terrain, ont accroché des panneaux, des permis de détruire. Tous les matins par la fenêtre, bien après que ton premier corps ne se soit étiré, tu les vois par la fenêtre, ils travaillent, cela s'appelle travailler. Ils ont des manteaux différents les uns des autres, et à l'inverse des chantiers que tu voyais enfant, ici, ils n'ont pas de combinaisons similaires et kaki, rien qui les ferait appartenir à quelque chose de collectif. Pourtant, à 10 heures précises, lorsque ta cafetière à toi fera passer du café chaud, ils s'assoient un instant, cessent les outils bruyants, les font taire comme on tue. Ils s'assoient sur un morceau de grillage plié et, selon les cas, mangent un sandwich ou fument une cigarette. Si t'as les yeux ouverts, c'est grâce à eux, à leur manteau chaud et dépareillé. Alors marteau-piqueur sur la chaussée, demain tu râleras une seconde avant de les rejoindre à la fenêtre. Toi, spectateur qui ne voudrait pas que la tour en préparation ne se construise trop vite, ne voudrait pas que l'on supprime ton théâtre quotidien. Si t'as les yeux ouverts, c'est déjà qu'il fait beau, que les manteaux-piqueurs s'exercent sur ton trottoir.
When I stir up worms at the down, when they're still slipping, with a pickaxe and a blue lamp, around the trees and to the fields, just before that the ground melts. Jam, 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 March, April, May, June, jam, jam, jam. My chicken will be hardy, and my customers will be regulated. I've got a few farms with almost 1 billion worms. I had worms since I'm 12. Worms can live 10 days out of the ground. My customers need to receive their worms alive. Every dead worm goes to my chickens. My father used to tell me I have to create my own chain. Like an unbreakable line, like an unbreakable line, like an unbreakable line. And I repeat to myself, like an unbreakable line, like an unbreakable line. My family is the result of my chain. I can break it. I can stop generate. More I take care of it, more my chain is strong and healthy. It's not a sacrifice. It's an honor to represent my tree. And my kids have to find some change into mine to complete and run the picture, to elevate. Noises remind me of sound.
Cette petite perle musicale, nous la devons évidemment à Laurent Polleret, mais aussi au groupe Dop pour le morceau Worm Hunting. Il est 6h24, vous êtes sur France Culture, vous écoutez Pas la peine de crier, c'est l'heure de la vignette. Bonjour la vigne.
Bonjour Marie. Ce matin, nous parlons d'un livre de photos qui n'existe pas encore. En effet, ce matin, nous lançons un appel à souscription pour le livre de photos de Philippe Guyoni. Il faut dire que le sujet est tout à fait passionnant. Intitulé « Africa America », il propose ainsi une série de portraits qui interroge les traces de l'africanité chez les diasporas noires des Andes. Des photos que l'on pouvait voir aux rencontres de la photographie en Arles en juillet dernier et que nous découvrirons peut-être si vous donnez assez d'argent pour que le livre paraisse. Écoute, explication, c'est la vignette avec vous, Philippe Guyoni. Bonjour.
Bonjour.
Photographe, vous êtes aussi historien de formation.
Oui, tout à fait. Oui.
Ce qui permet peut-être de tracer, de mieux comprendre votre parcours. Donc, votre livre apparaît en octobre 2011. Mais précédemment, on peut peut-être rappeler le travail que vous avez fait en Afrique, le Tirailleur et les Trois Fleuves.
C'est vrai que ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis photographe. Et l'Afrique est mon continent de prédilection. Depuis les années 2000, je réalise des portraits qui associent photographie et son des légendaires tirailleurs africains. Je préfère ce terme d'ailleurs à tirailleurs sénégalais. Et c'est vrai que j'ai parcouru et je parcours toujours une 13-14 pays, des anciens territoires coloniaux d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, à la recherche de quêtes mémorielles, à la recherche de ces tirailleurs, de leurs femmes, de leurs descendants également, pour interroger autrement une francophonie que l'on méconnue ou oubliée, tantôt l'un, tantôt l'autre. C'est un regard sur une contemporanité. Une francophonie contemporaine, ce sont tout simplement pour dire que finalement je me suis rendu compte qu'en réalisant des portraits, quelque part on prouve à nos contemporains que les gens qu'on vient de photographier sont bien vivants, sont bien là, et ces tirailleurs sont encore pour quelques années nos contemporains. Et j'avais envie de poser des visages au-dessus de la table quelque part, aux consciences oublieuses, comme disait Léopold Sédar Senghor, c'est-à-dire pour que tout le monde voit et réfléchisse un peu plus.
Alors d'une conscience oublieuse à une autre. On part dans les Andes, en
côté,
Amérique latine.
Voilà, et j'ai ressenti le besoin très vite finalement, et ça s'est matérialisé à partir de 2008, d'aller voir l'autre Afrique. Tout le monde sait finalement qu'il y a des populations noires qui vivent au Brésil. Tout le monde sait qu'il y a des populations noires qui vivent dans les Caraïbes, Cuba, Haïti. Peu de gens savent que des diasporas noires vivent au Venezuela, en Colombie, en Bolivie, au Chili, en Équateur, dans les Andes. Issu de la colonisation espagnole, pour le coup, pendant plus de 4 siècles. Et j'ai ressenti le besoin d'aller voir l'autre Afrique. Pas pour valider, pour absolument trouver ce qui n'existe peut-être plus, mais simplement faire une errance photographique, sonore encore une fois, pour raconter, montrer et créer un lien entre le continent noir, l'Afrique, et ses diasporas dans les Andes, puisque finalement les uns et les autres ne se connaissent pas, voire s'ignorent. Et je pense que le rôle d'un photographe, c'est créer des ponts, comme ça, visuels pour le coup, sonores, pour que après les gens aient peut-être envie de se rencontrer, en tout cas que nous, on puisse aussi apprendre des choses, je dis nous, en Europe, etc.
Alors à quoi ressemblent ces portraits ? On en a extrait un de la collection multiple qu'on peut voir de toute manière sur Internet.
Moi, dans toute ma démarche photographique, c'est une démarche qui associe, enfin, qui s'inscrit dans la photographie documentaire et sociale. Réaliser des portraits, c'est souvent des portraits atemporels, c'est-à-dire que c'est du carré, format carré, noir et blanc. Et l'idée est que la personne qui regarde ne sache pas finalement où et quand la photographie était faite. Et la couverture du livre, Africa America, donc aux éditions Diaphane, ce sera le portrait, comme ça, très frontal d'un homme. C'est un monsieur qui est âgé de 80 ans, c'est sur la côte afro-vénézuélienne, donc au nord du Venezuela. Et il a un masque, comme si l'Afrique, quelque part, était sur sa tête, parce qu'il me raconte qu'il est le seul dans son village qui s'appelle Okumare de la Costa, et tout ça sera présent dans le livre par le son. Et ce monsieur me raconte qu'il est le seul à avoir le droit de représenter El Diablito, le diable. Et derrière lui, il y a une voiture américaine des années 70, une sorte de vieille Mustang, qui quelque part est là pour illustrer, entre guillemets, pour faire un clin d'œil, et puis pour nous montrer que nous sommes sur le continent sud-américain. Voilà, cette photographie, je trouve, associe à Africa et Américain.
Merci beaucoup Philippe Guyoni. Pour soutenir ce projet de livre, qui bénéficie également de textes de deux grands spécialistes, pour l'histoire des traites négrières, l'historien sénégalais Ibrahima Tioub, et puis pour la photo, un texte de Christian Cojol. Il suffit donc de télécharger un bon de souscription sur diaphane.org, 30 euros au lieu de 45 euros. Ouais. Un site qui présente bien sûr une très large sélection de vos photos.
Il est 6h29 dans mon plateau radio ce matin, une fois n'est pas coutume, les passagers de la nuit, car Thomas Baumgartner et sa petite équipe détiennent un scoop radiophonico-philosophique, ça existe. Ils ont retrouvé la voix de Walter Benjamin, ils l'ont fait écouter à Stéphane Hessel qui a souvent croisé le philosophe lorsqu'il était enfant. Donc surprise sonore, réminiscence, force des voix à travers les décennies, c'est au programme ce soir dans les passagers de la nuit à partir de 23h sur France Culture, dans une production signée Philippe Baudouin et Véronique Lamandour. Et puis Laure Adler toujours un petit peu d'avance sur nous, puisque ce soir elle vous propose dans Hors Champ à 22h15 de rencontrer l'artiste allemand Anselm Kiefer, qui a hérité cette année de la chaire de création artistique au Collège de France. Nous le recevrons dans deux semaines, mais tout de suite il est 6h30, les titres et la revue de la presse en ligne. Qui nous sont présentés par Solène Lehen.
En Tunisie, c'est un gouvernement d'union qu'a formé hier le Premier ministre Mohamed Ranouchi. Trois chefs de partis politiques de l'opposition figurent dans le nouveau cabinet. Outre le Premier ministre, sept membres de l'ancien régime sont reconduits, notamment au poste régalien de l'intérieur, de la défense, des affaires étrangères et des finances. Les élections en général se tiendront dans 6 mois. En France, la réforme de la garde à vue arrive aujourd'hui à l'Assemblée, où elle sera examinée pendant 2 semaines. La question du mariage homosexuel étudiée aujourd'hui par le Conseil constitutionnel. Et puis la mort de l'académicien Jean Dutour, hier à l'âge de 91 ans.
Tout cela nous mène à toujours 6h30. Que nous dit ce matin la presse en ligne, Solène ?
Il y a des fois où l'on se dit qu'on aurait mieux fait de ne rien dire. C'est sûrement ce que pense Michel Alliot-Marie en ce moment même. Autant les journaux français sur Internet ont été prompts à saluer et louer la chute du président Ben Ali en Tunisie, autant ils sont critiques envers l'attitude adoptée par les représentants français lors de cette révolution du jasmin, comme on l'appelle désormais. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les journalistes n'y vont pas de main morte et Michel Alliot-Marie se retrouve en première ligne. La ministre des Affaires étrangères auditionnée ce matin à l'Assemblée sur la situation en Tunisie. Avec une liberté de ton incroyable, l'Express se demande si Mam doit démissionner. Rue 89 ne sait quel mot employer, connerie, incompétence ou ignorance. Mam dégage, peut-on même lire sur le poste.fr, le blogueur faisant référence aux affiches brandies par les manifestants dans les rues de Tunis et réclamant le départ de Ben Ali.
Et la cause de ce déchaînement, Solène, c'est la proposition de la ministre des Affaires étrangères à l'Assemblée la semaine dernière.
Oui, et alors que les manifestations font rage en Tunisie, 35 morts déjà annoncés. La vidéo est sur presque tous les sites, celui du Monde notamment.
Nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler des situations sécuritaires de ce type. C'est la raison pour laquelle nous proposons effectivement aux deux pays de permettre, dans le cadre de nos coopérations, d'agir en ce sens pour que le droit de manifester puisse se faire en même temps
Merci.
Que l'assurance de la sécurité.
Une coopération policière, la ministre se défend par la suite. Elle souhaitait assurer la sécurité des Tunisiens. Mais ses adversaires politiques y voient le soutien coupable de la France à un régime autoritaire. Mam est donc clouée au pilori, en particulier par la gauche. Le Monde compte ses adversaires. Excuses ou démission, exige Olivier Besancenot, Pierre Moscovici, Jean-Luc Mélenchon. La France est le paillasson du président Ben Ali, s'insurge Daniel Cohn-Bendit. Ses propos sont effrayants, estime le président de la Ligue des droits de l'homme, Jean-Pierre Dubois. Sur Internet, Mediapart dit avoir honte. Honte totale pour Bruno Mazur sur rue 89.
Les échos d'analyser, je cite, c'est peu dire que la majorité présidentielle embarrassée n'a pas volé au secours de Mam.
Henri Guénaud évoque aujourd'hui seulement des maladresses et incompréhensions pour la défendre. Quant à savoir si elle doit présenter des excuses, le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy botte en touche, vous lui poserez la question. Tout le jeu va consister à faire croire que la position française n'était pas celle de Michel Alliot-Marie, avance un responsable de la majorité dans le quotidien économique, car il sera difficile de savoir si la ministre a fait une erreur ou si ses propos avaient été arrêtés au plus haut niveau, comme l'a affirmé Benoît Hamon, porte-parole du PS. De toute façon, c'est plus qu'une bévue, une gaffe pour les dernières nouvelles d'Alsace. Loin d'être un dérapage, cette déclaration est symptomatique du décalage du gouvernement français par rapport à la situation à Tunis. C'est la preuve de la proximité naturelle de la France avec le régime de Ben Ali. La diplomatie française n'a pas vu venir ou voulu voir venir la fin du régime en Tunisie, explique les Échos. Elle a tardé à apporter son soutien au peuple dans sa quête de démocratie. Il a fallu un mois avant que la France soutienne la révolution, une fois Ben Ali déchu, note le Dauphiné libéré.
Dans ce contexte agité, un bloqueur du monde s'est mis en tête de raconter par le menu les anciennes amours de la France et de Ben Ali.
Et les casseroles sont de sortie. Vidéo à l'appui, Nicolas Sarkozy, fait citoyen d'honneur de la ville de Tunis, Dominique Strauss-Kahn, patron du FMI, jugeant que la politique économique de la Tunisie est, je cite, « saine » et constitue le meilleur modèle à suivre pour les pays émergents. Éric Raoul, le député UMP, se réjouissant de la réélection de Ben Ali, mais aussi Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, réfutant le qualificatif de « dictature univoque » pour le régime tunisien, sans oublier l'accolade de Jacques Chirac et Ben Ali. Pour l'ancien président français, la Tunisie était il y a quelques années bien en avance par rapport au premier des droits de l'homme, celui de manger, être soigné et recevoir une éducation. Même si le point relève un début d'autocritique du gouvernement français avec une déclaration hier d'Alain Juppé, le ministre de la Défense, pour Bruno Mazur, dans Rue 89, trop longtemps, l'attitude de la France, de droite comme de gauche, a été « mieux vaut des pourris que des barbus ». L'ancien présentateur télé souhaite avec humour bon courage à Mam pour ses futurs échanges avec son homologue tunisien.
Et puis vous terminez par un blog du Nouvel Observateur qui ironisait il y a quelques jours encore sur la discrétion, le silence de Michel Alliot-Marie depuis son arrivée au Quai d'Orsay.
Au fait, s'interrogeait la journaliste, qui est ministre des Affaires étrangères? Eh bien personne, c'est le grand oubli du remaniement. Nicolas Sarkozy a zappé le Quai d'Orsay. Mais désormais, conclut nostalgique Rue 89, le discours de Michel Alliot-Marie prononcé la semaine dernière fait regretter le temps où Paris se taisait.
Merci beaucoup Solène, le prochain journal de la rédaction à 7h tout rond.
France Culture présente Bulbus de Anya Hilling, mise en scène et scénographie de Daniel Janto. À Bulbus, au pied de la montagne, la vie suit son cours. Les gens de Bulbus paraissent simples. Bulbus, un conte à la grâce inquiétante des paysages nordiques et à la noirceur d'une trame policière. Au Théâtre de la Colline, du 19 janvier au 12 février. Un spectacle France Culture.
À 6h36 encore, la table est très studieuse. Bonjour Philippe Petit.
Bonjour Marie.
Bonjour Sophie Joubert. Alors Philippe, vous éclairez pour nous l'actualité des essais. Et ce matin, votre chronique a un titre assez triste, j'avoue. Vous dites « La tristesse durera toujours ». J'espère que vous allez vous contredire dans quelques instants, parce que sinon moi je ne vais pas terminer la journée.
Non, enfin c'est une phrase de Van Gogh. Hein. Bon, la tristesse. Alors hier, effectivement, on était dans l'émergence, la nouveauté avec Henri Atlan, la survenance même. Mmh. Et là, on est avec un anthropologue, effectivement, qui vit dans une zone périurbaine et qui nous raconte cette forme de tristesse. Alors, c'est vrai que dans le monde d'hier, il y avait les champs, les vaches, l'étendue du bocage, les vergers et les vallées souriantes. Puis, il y eut les zones d'aménagement concerté, les zones à urbaniser en priorité, les hypermarchés et les lotissements clonés aux allures de guirlandes. Alors, le phénomène de périurbanisation commence dans les années 60 et atteint son apogée dans les années 2000, à tel point que l'hebdomadaire Télérama a consacré l'an dernier un dossier au phénomène intitulé « Comment la France est devenue moche ». Quel mépris! L'anthropologue Éric Chauvier a pris la mouche, il alpague les journalistes bien-pensants dans son dernier essai qu'il a intitulé carrément « Contre Télérama ». Nul n'est parfait. Il réside lui-même avec sa compagne et ses enfants en zone périurbaine. Il nous propose donc une visite guidée au milieu des pavillons et des zones industrielles, avec dans sa besace des mots-clés très bien choisis, un carnet de notes et un fort désir d'aller à la rencontre de ces zombies périurbains.
Alors vous allez nous dire qui sont ces zombies, mais comment l'auteur qui est anthropologue s'y prend-il pour parler de ces territoires ?
Alors, c'est là où son texte est à la fois ambigu et en même temps sympathique. Éric Chauvier, bien que choqué par le journaliste de Télérama et son jugement de classe, n'est pas un laudateur des zones périurbaines. Il analyse son espace de vie à la loupe et il constate les dégâts d'une standardisation dont il n'hésite pas à dire qu'elle est le propre de la vie mutilée, selon l'expression d'Adorno. Il va jusqu'à dire que la standardisation de nos existences nous apparaît comme telle dans la mesure où nous ne pouvons pas la tirer de son néant mutique. Alors c'est le cauchemar climatisé. Il décrit alors le rythme de vie des habitants. Il dit qu'il n'a de relation finalement qu'avec les parents d'élèves. Il écoute le son des voitures aux heures de pointe, les discussions entre voisins à la sortie de l'école, ou encore les achats chez l'épicier du coin, garant, dit-il, de l'autre authenticité locale. Mais cette quête de vécu, on sent que finalement qu'elle mène nulle part et Chauvier n'y croit pas. L'homme de la périurbanité est forcément indistinct, anonyme. Il est, selon Chauvier, condamné à la parodie et donc lui aussi est condamné à la parodie, déshumanisé. C'est un homme sans qualité, mais sans l'indifférence souveraine du héros de Musil.
Je ne donnerai pas mon avis, mais il y a pourtant vraiment il y a de la vie en zone périurbaine. La standardisation n'efface pas les relations humaines. Pourquoi est-ce qu'il défend ce point de vue-là ?
Alors, il y a de la vie. La mairie organise même des journées utopie et Chauvier, tout cela le raconte, et il en convient, mais il revient, c'est comme s'il revenait bredouille. Et son livre se présente donc comme une enquête infructueuse. C'est un peu Alice au pays de l'ennui. Et il est terrible de ce point de vue-là. Les populations périurbaines ont perdu leur imagination, selon lui. Alors c'est vrai que les discussions auprès du supermarché sont pas terribles. Face à un projet d'éco-quartier controversé, tout le monde s'en mêle. Mais Chauvier constate que les habitants et lui n'ont pas d'opinion établie. Il postule que l'appétence pour la dissolution des causes pourrait constituer un principe majeur de la vie périurbaine. Alors l'auteur raconte avec effarement l'histoire de cet âne qui se fait caillasser une nuit à force de trop braire, alors qu'il a toujours vécu dans le même champ. Il tente un contact direct avec les habitants, il discute avec des cadres, joint son jogging à celui d'autres joggeurs, écoute avec patience les lamentations d'une voisine, mais il déchante à chaque fois. Ici, écrit-il, personne ne vient chercher à comprendre les comportements humains.
Alors, puisqu'il titre son essai contre Télérama, vous avez quelques minuscules secondes pour nous dire quelle est in fine la réponse qu'il donne à Télérama.
Il répond par une parabole, alors je vais aller vite. La vie périurbaine est semblable, dit-il, à une épaisseur de neige tombée sur les pavillons, insonorisant toute forme de vie qui pourrait s'en échapper. Comme si toute révolte, là où les pétitions et autres doléances fleurissent comme roses au soleil, devenait inutile. Alors, les mots dépassent la raison, il y a comme une impossibilité de passer de la révolte intime à la révolte politique, et c'est ça, bon, finalement, l'apologue du livre. Chauvier parle à ce sujet de rapt anthropologique, de crise culturelle. Ce livre est donc l'histoire d'une déprise et en même temps la seule prise possible pour l'auteur de dire la morne pleine de l'ennui, rencontrer les gars du coin, s'emmerder, se confronter au temps suspendu de ces zones périurbaines. Bref, c'est l'envers de la géographie contemporaine.
J'adore. Merci beaucoup, Philippe. C'est aux éditions Alia. Bonjour, Sophie Joubert.
Rebonjour.
Sophie, vous avez vu Madame Butterfly de Giacomo Puccini, mise en scène par Bob Wilson à l'Opéra Bastille.
Encore une histoire triste ce matin, et c'est Maurizio Benigni qui dirige l'orchestre de l'Opéra de Paris pour la reprise de cette production de 1993. Madame Butterfly est une tragédie japonaise écrite par Puccini en 1904, d'après une nouvelle de John Luther Long et la pièce de David Belasco qui en est inspirée. Et la matrice de ces deux œuvres est un roman de Pierre Loti, Madame Chrysanthème, paru en 1887. Vie et mort d'une jeune japonaise, séduite
séduite et abandonnée par un officier américain qui l'épouse puis la quitte alors qu'elle est enceinte. Butterfly, en japonais Tsio-Tsio-san, a 15 ans lorsqu'elle rencontre Pinkerton. C'est une ancienne geisha issue d'une famille riche déclassée. L'officier se marie pour se divertir alors qu'elle lui sacrifie tout par amour. Elle se convertit au christianisme contre la volonté de sa famille qui la renie. Pinkerton finira par revenir 3 ans après avec son épouse américaine. Il se découvre père d'un petit garçon, mais Butterfly, déshonoré, se suicide. Vous nous gâtez, Sophie. Le duo tragique entre Butterfly et Pinkerton à l'acte 1, dans un décor épuré comme un jardin zen, conforme à l'esthétique de Bob Wilson, qui semble d'ailleurs ne pas avoir tellement bougé depuis. Maquillage très blanc, costume aux coupes strictes, version contemporaine des vêtements traditionnels japonais, déplacements lents, souvent latéraux, et posture figée. Il se dégage de l'ensemble une impression de perfection, presque géométrique. Bob Wilson a voulu un espace vide avec un pont de bois à ras du sol, une étendue de sable gris et des lumières travaillé comme une matière vivante. Le fond de scène change de couleur au rythme de la musique. Des nuances de bleu, presque blanc au début, puis de plus en plus profond. Un rouge orangé comme une éruption volcanique au moment de la colère de l'oncle de Butterfly, le bonze qui va provoquer la rupture avec la famille.
Alors au-delà de cet aspect visuel, quelle lecture fait Wilson de Madame Butterfly ?
Il dépouille l'opéra de toute intention psychologique, ce qui donne à sa mise en scène une dimension un peu froide, mais cohérente avec ce que raconte l'opéra. Puccini a écrit un poème lent qui exprime par la musique les tourments intérieurs des personnages, pas ou peu d'action, mais une longue attente, une souffrance parfois muette qui conduit Butterfly à la mort. Le livret parle aussi de la confrontation de deux cultures qui ne se rencontrent pas, la tradition japonaise et l'insouciance conquérante de l'Amérique. Chez Wilson, ce sont les regards de Tsio-Tsio-san et de Pinkerton qui ne se croisent pas, et c'est très beau. Elle a l'assurance d'une femme mûre et non la naïveté d'une jeune fille de 15 ans. Lui semble transparent, presque fantomatique.
Que nous dites-vous de la partition, Sophie ?
Puccini, qui n'est jamais allé au Japon, s'inspire de la musique traditionnelle et des voix nippones, n'hésitant pas à l'époque à rencontrer une célèbre actrice japonaise en tournée en Italie. Il étudie l'ethnographie orientale, les cérémonies religieuses et l'architecture. La partition contient aussi une étrange parodie de l'hymne américain. Dans le rôle de Butterfly, la soprano Michaela Carosi déploie une belle puissance vocale. Dommage que son partenaire, le ténor américain James Valenti, parfois couvert par l'orchestre, ne soit pas à la hauteur. Une petite réserve levée par le reste de la distribution et la chorégraphie de Tsujushi Anayagi, formée au Kabuki et collaboratrice de longue date de Bob Wilson.
Merci beaucoup Sophie, c'est donc à l'Opéra Bastille et c'est
jusqu'au 14 février.
Super, merci beaucoup. Salut à vous Marc Vancher.
Bonjour Marie, vous avez vu, elle est complètement sortie à sa chronique avec sa tasse. Avec
je vois du thé japonais.
Voilà, voilà.
Tous les
voilà.
jours, chaque matin. On a pris la mauvaise habitude de vous grignoter une petite minute.
Oui, j'ai remarqué, mais matin. C'est pas grave, c'est un plaisir, vous savez.
C'est un plaisir,
oui.
Bon,
il faut que je vous annonce la mort de Jean du Tour.
Oui.
Voilà, juste vous dire que Jean du Tour, je ne suis pas certain que ce soit le héros absolu Philippe Petit, mais voyez tout de suite quand j'arrive, je dis que Jean Dutour est mort et Jean Frédérics, qui est à la console de diffusion pour la prise de son, l'excellent technicien que nous connaissons tous ici, me dit « Ah, c'était un ami de Vialat, ça nous rappelle que c'est l'année Vialat, et que Jean Dutour, s'il était ami de Vialat, ne pouvait pas être foncièrement mauvais, on le disait réactionnaire, provocateur, ronchon, je crois qu'il a, d'ailleurs, il revendiquait bien tout ça, à la fois académicien et puis aussi académicien aux grosses têtes sur RTL, évidemment l'auteur du Bombeur, hein, prix Interallié 52, qui a fait, ça reste bien, dit Petit. Voilà, c'était pour rendre hommage à Jean Dutour. Je pense que nous y reviendrons tout à l'heure dans Tout Feu, Tout Flamme avec Laura Adler.
Super, merci beaucoup Marc Vancher. Nous vous écouterons avec plaisir. Et tout
bise.
De suite, nous écoutons Jean-Louis. Une grande bise.
Bonjour Marie, bonjour Marc et bonjour à tous. Ouvrir un nouveau Delerme, c'est un peu comme choisir le trottoir au soleil. Quand arrive le printemps et qu'on traverse tout exprès le boulevard pour s'arracher à la fraîcheur de l'ombre qui fait paraître les choses bleuissent encore par le froid. C'est d'ailleurs le titre de son nouveau recueil, Le trottoir au soleil, et celui d'un des textes qui le compose, l'avant-avant-dernier, l'antépénultième, comme on dit, et qui est souvent stratégique dans une suite sérielle, et ne me demandez pas pourquoi. Delerme, c'est un peu comme le théâtre de Tchekhov, ça semble partir dans tous les azimuts, mais qu'est-ce que ça tient ? Des textes courts, des suites de moments précis mais fugitifs, un regard, une lumière, des odeurs, une sensation infime née d'une posture du corps. les oublis, les interstices, les replis, les bugs de l'existence, des ralentis, des stases, des riens, en somme. Mais de ces riens qui font dire que l'auteur minimaliste de la première gorgée de bière a trouvé, à force de piétiner sa modeste friche, ce que César et Pavese réclamaient à Marcel Proust, à l'esprit de Proust. Proust, apprends-moi à dire le monde selon moi, moi qui sens le monde selon moi. En fait, Delerme est au texte court ce que Proust fut au texte long. Il est le Marcel Proust du bref, pourrait-on dire. Sentir le monde selon soi, c'est exactement cette forme de pouvoir presque occulte qui fait l'écrivain véritable et en même temps l'isole de tous les autres. Et c'est un régal, disons-le. C'est toujours subtil, beaucoup plus subtil que ça n'en a l'air, Delerme, parce qu'il manie tout ensemble le rare et le nombreux, comme la vie, exactement. Je me souviens d'une carte postale que lui avait inspirée ces attroupements beaufissimes de gondoles louées par des Japonais en extase à Venise, des Japonais pour qui l'on braille à la demande « Au sole mio » ou « Un Ave Maria ». C'était en soi un chef-d'œuvre où il était démontré que la félicité, dans les rares occasions où elle conduit les hommes, se termine toujours en bazar. L'équivoque est la reine du monde et Philippe Delerme est l'un des rares contemporains qui parviennent à rester gai même dans la mauvaise humeur. Voilà enfin un romancier à qui les questions ne viennent à l'esprit que pour le plaisir féroce de ne pas avoir de réponse. L'auteur parle très joliment des hommes, des femmes, de nous, des maisons aussi et de la façon insoupçonnable dont elles influencent ou même dirigent le cours d'une vie. En tant que fils de Dirlot, il a habité nombre d'écoles, éprouvé la solitude des classes vides le soir, goûté aux livres de prix lus à l'avance, comme François Sorel dans Le Grand Maulne. C'est d'elle les maisons qu'il a appris à arrêter le temps, son métier d'écrivain, pour que la mémoire veuille bien faire parler les murs où s'entête une fraîcheur ancienne et que surgissent enfin les fantômes chéris. C'est un enchantement au sens magique du mot. Comme les hippomées à la grille du jardin, la nostalgie rampe, s'accroche, s'enroule à son motif et ne se laisse pas cueillir. Ça sent la figue sèche, la prune écrasée, le galet brûlant et le bonheur pas forcément perdu. Et c'est superbe.
C'était une édition mélancolique de Jean-Louis Hésine. Merci beaucoup Jean-Louis. Nos auditeurs peuvent retrouver votre chronique et toutes les autres, ainsi que le poème et le Polaroid, sur le site internet de franceculture.com. Merci à Sylvia Favre et Franck Lilin. Merci aujourd'hui à la technique, grand Jean Frédéric, annoncé par Marc. Et merci à la toute petite équipe de Pas la peine de crier, c'est-à-dire Sophie Bobert et Laurent-Paul Rey. Ils se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle journée. Cette fois, vous êtes réveillés, vous êtes en de bonnes mains.